Qui fait l'intro, c'est toi.
Maintenant qu'Iris vient de dire que j'avais une écriture très féminine, nous pouvons reprendre...
Ah, on fait pas de nouvelle intro. Tu sais, non. Prétendre qu'on a fait deux podcasts, et si on sort dans 3 semaines, genre on en a refait un, on est hyper productif.
Bah non, parce qu'on pourra pas parler des épisodes de Breaking Bad où tu te rends compte que Skyler est un personnage de fiction, pas une vraie femme dans la vie.
Ne vous inquiétez pas, on va pas reparler de Breaking Bad.
On va se relancer sur peut-être la série de l'été la moins polémique, puisqu'on va parler de Bunheads, la nouvelle série d'Amy Sherman-Palladino, qui est diffusée sur ABC Family depuis le début de l'été, qui s'achèvera dans lundi, je crois. En tout cas, la diffusion de ces 10 premiers épisodes, mais on a appris hier, donc c'est-à-dire vendredi
17 août,
que la série était renouvelée pour un autre bout de saison, comme ils font sur ABC Family, pour une deuxième moitié de saison, d'autant d'épisodes, je crois.
Doit-on considérer que c'est une bonne nouvelle ou pas?
C'est la réponse. Oui. Nous allons vous apporter la réponse. Et cette réponse, Iris et moi la partageons. Et c'est...
Oui, oui, évidemment. C'est une très très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Pourquoi est-ce que c'est une excellente nouvelle?
On dirait Nicolas Sarkozy quand tu parles comme ça.
C'est Bataille qui fait ça.
Hein? Et pourquoi les Français pensent que Bunheads est une bonne série?
Les Suisses aussi.
Pourquoi les Suisses?
Pourquoi les Français et les Suisses trouvent-ils enfin un terrain d'entente?
Et parce que la série a enfin trouvé son ton et elle sait gérer ses personnages et elle sait quelles sont ses forces.
Elle l'a trouvé très vite son ton.
Ah, pas du tout.
Au 3e épisode, on était déjà...
Non, elle a trouvé son ton en éliminant la vieille de Gilmore Girls.
Ouais, c'était au 3e épisode, non?
Oh non, non, non. Quand est-ce qu'elle est partie en...
Au 3e épisode?
Ah non. Je pense que c'est au 5e ou au 6e ou...
Non, c'était... Attends, le premier épisode, c'était celui, donc blablabla, tout... C'était le pilote. Le deuxième épisode, c'était celui où il y a l'enterrement.
La préparation à l'enterrement.
Préparation à l'enterrement plus enterrement. Troisième épisode, c'était...
Et je pense que oui, la série a réglé son problème majeur qui était le fait qu'elle ne s'intéressait pas du tout aux conséquences de la mort du mari de la brune, et qui est donc aussi le fils de la vieille, puisque vous avez compris que je maîtrise parfaitement le
donc,
nom oui, des personnages.
Donc oui, il y a deux personnages importants dans Bunheads, c'est dans trois personnages entre guillemets importants dans Bunheads, c'est la vieille, la brune et les gosses.
Voilà. Ouais. Alors effectivement, et là on est parti sans faire un petit résumé de l'histoire.
Oui, moi, je comprends rien.
Pour ceux qui ne maîtrisent pas la série, c'est que donc en fait, l'histoire se passe dans une ville à la Gilmore Girls, dans laquelle vient d'arriver une brune. Et cette brune-là, pourquoi est-ce qu'elle est arrivée dans cette petite ville avec des petits kiosques
Parce qu'elle a épousé le fils de la vieille.
Le fils de la vieille qui était son stalker, puisque elle, c'était une danseuse à Las Vegas. Elle avait une vie un peu pourrie, c'est-à-dire que son appart n'était pas super, tout ça.
Un peu comme une parisienne.
Et heureusement, il y avait un type qui la harcelait, qui lui offrait des cadeaux, qui voulait l'emmener au dîner, tout ça, quand il venait à Las Vegas une fois tous les 6 mois. Et franchement, elle trouvait ça un peu nul. Mais un jour, elle est un peu malheureuse. Alors elle fait, ok, on n'a qu'à aller dîner ensemble. Et paf, il se saoule la tronche, elle se marie avec lui, et hop, elle arrive.
Non, il la demande en mariage avant qu'ils partent dîner ensemble.
Ah.
Non?
Bon, bref. Et donc, elle arrive dans sa petite ville, le mec vit chez sa mère, qui est une prof de danse, et Emily Gilmore.
Non, il vit pas chez sa mère, c'est sa mère qui vit avec lui.
Et là, on...
Le mec meurt.
Et hop, le mec meurt. Donc, oh mince, et là, on apprend que...
Et il meurt d'une manière super sage, donc c'est le cliffhanger, c'est la fin du premier épisode, c'est... Et il est mort.
Et il meurt comment?
Dans un accident de voiture, juste après avoir couché avec elle, pour la première fois.
D'accord.
Alors là, toute personne normale se dit, la fille... Non, mais la fille, ouais, tout personnage normal...
La fille, elle va retourner à Las Vegas.
Enfin, est écrit de la façon suivante, c'est-à-dire que, elle a rien à faire dans cette petite ville, elle va partir. Mais
Le type lui a tout cédé, tous les gays, donc elle reste.
Et c'est pas elle.
Donc elle reste, mais elle reste. En même temps, elle a pu dire, non mais attends, je viens de me marier, ça fait 3 secondes, je le connais pas ce gars-là, j'ai aucune attache... Je laisse tout à sa mère, je me casse. Tout ce départ qui, en gros, pour justifier l'arrivée d'une citadine un peu fofolle dans une ville à la Gilmore Girls...
Était un peu
artificiel, enfin vraiment, tout ça. Et surtout qu'étant une série ABC Family, il fallait en plus que... la moitié de l'épisode soit consacrée à quatre gamines qui sont des élèves du cours de danse d'Emily Gilmore, puisqu'Emily Gilmore, en fait, est une vieille prof de danse. Et ce sont quatre élèves blanches. Ok.
Mais il y a quand même une grosse.
Il y a une diversité, exactement. Il y a quand même une grosse, c'est-à-dire que l'une des quatre n'est pas anorexique.
Donc, tu vois, c'est une série très ouverte d'esprit pour ABC Family.
Et il y a un gros problème d'équilibre en début de saison.
D'équilibre alimentaire aussi. Je vais me faire tracher.
Et ce qui est assez étrange, c'est que la série a trouvé son équilibre en se focalisant sur... voilà, je trouve que les derniers épisodes sont vraiment réussis parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est les histoires des gamines dans lesquelles intervient la brune, qui est assez drôle. Il y a un décalage de génération, voilà. Et là, depuis qu'Emily Gilmore est vraiment de côté, en retrait, en gros personnage secondaire, je trouve que c'est vraiment une chouette série qui a un ton qui fonctionne bien. Et le fait d'éloigner Emily Gilmore nous éloigne aussi cette histoire du invraisemblable du type il est mort, sa mère, le deuil, elle l'a fait en deux jours. Mais depuis 5-6 épisodes, enfin depuis 3-4 épisodes,
ouais, moi je trouve ça.
Les dialogues de la série sont comme Gilmore Girls, bourrés, mais ultra bourrés de références pop culture. Enfin, c'est vraiment très 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 drôle.
Oui.
Est-ce que c'est dans. Non, c'est dans Awkward, c'est dommage. Hein. C'est dans Awkward qu'il y a une référence aux cheveux de l'héroïne qui disait « avec ta coupe de cheveux à la Big Love ». Et je pense que c'est la réplique la plus drôle de tout l'été. Mais voilà. Mais c'est super, Benedict, à la fin.
Et on va même pas parler d'Awkward, du coup.
Bon, on peut.
Bah, Benedict, c'était, je suis d'accord, c'est génial. Les gamines sont très attachantes. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, parce que Shonda Rhimes les avait attaqué Amy Sherman-Palladino parce que ça manquait de noirs et de minorités, qu'aucune gamine faisait partie d'une minorité. Et ben maintenant, ce qui est génial, c'est qu'à chaque épisode, on a la caméra qui est focalisée sur les quatre petites danseuses blanches, et que devant la caméra, il y a des noirs qui passent, comme ça, des gamines noires qui passent, des gamines asiatiques qui passent, mais on n'a jamais la moindre concentration sur elles, mais les minorités sont là, elles sont représentées. C'est les minorités silencieuses. Et donc, Awkward.
Dans Awkward, on se concentre essentiellement aussi, ou pas ?
Ah ouais, d'accord, t'es sur ton téléphone et tout pendant. Je suis très fière de toi, Gégé.
On se concentre essentiellement sur les problèmes de blanc aussi hein, dans Awkward.
Sur les problèmes d'ado.
Même si la série a réussi un très très chouette épisode sur la meilleure amie asiatique.
Avec
personnage secondaire
asiatique.
Dans le style quota ethnique obligatoire. Et donc, cette petite saison d'Awkward reçoit pas vraiment un enthousiasme critique de la part, de façon générale, de ce que je peux lire, alors que je trouve qu'elle s'en sort plutôt vraiment quasiment aussi bien que la...
Moi, je trouve que c'est tout à fait du même niveau que la
une. Bah, c'est ton tour de dire du bien.
Bon, bah, cette deuxième partie de podcast va durer 15 minutes. je trouve que c'est toujours aussi sympathique, que c'est toujours écrit avec autant de justesse. Là, le personnage de la guidance counselor qu'on avait la saison dernière, elle devient aussi directrice de l'école.
Et puis surtout, elle devient humaine. Un personnage qui est plus intégré dans la série. Voilà. Et surtout qui existe autrement que dans...
Que par Jenna.
Que dans son discours avec Jenna, que dans ses échanges avec Jenna.
C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Franchement, cette saison 2, elle me plaît. Le triangle amoureux est pas lourd. Je trouve que c'est pas... Il y a des triangles amoureux qui sont très, très chiants à subir. Là, le triangle amoureux, je le trouve géré d'une manière logique.
Excusez-moi, mais c'est quoi Awkward ? Ça parle de quoi ? C'est au lycée, c'est ça ou...
Tu sais pas ce que c'est Awkward.
Non, mais c'est la deuxième saison d'Awkward. On en a parlé sur le site et tout. Qui est-ce qui avait fait un article
sur
Awkward ?
Je lis pas les articles sur les séries. Je regarde pas. J'ai peur de me faire...
T'as peur de découvrir des choses qui pourraient te plaire ?
Ben non, j'ai peur qu'on me gâche la moitié de l'intrigue.
Mais tu les regardes.
Tu ne comptes pas sur la capacité des rédacteurs de Perdusa à présenter une série sans spoiler les éléments les plus importants ?
Mais moi, je ne spoil jamais.
Ah ! Hein ?
Je spoil pas. Mon article sur Wilfred, est-ce que tu trouves... Ah oui, j'ai sorti un article sur Wilfred, chers auditeurs. Tu trouves qu'il spoilait ? Je me suis posé la question.
Ah, sur ton état de santé mentale ? Ouais, un peu quand même.
Oui, non, mais ça, les gens qui me suivent sur Twitter sont déjà au courant, donc bon, c'est pas grave.
Eh ben, Hogwarts, c'est non, c'est l'histoire d'une gamine. C'est un teen show tout bête, centré sur une gamine et qui est lycéenne dans un bahut lambda et en gros elle a pas de chance.
Et en fait dans le dernier épisode D'accord. de la saison 8, tu apprends que chance, le lycée si. Est situé sur la bouche de l'enfer.
Ah bon ?
T'as même pas compris ça. C'était évident, c'était un twist.
Non, c'est assez drôle, c'est bien fichu. Là.
C'est pas l'adaptation d'une série anglaise ?
Non. Mais c'est de nouveau une série MTV.
Mais c'est vraiment un teen show.
D'accord.
C'est un teen show MTV très sympa, très, très bien géré.
Très drôle et assez, juste, assez juste sur les sentiments adolescents, d'autant que je m'en souvienne.
Voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Je suis plus une ado, mon Dieu ! J'en ai marre, pourquoi est-ce que vous parlez toujours de moi comme une ado ?
Parle-nous encore de Skylar un petit peu. Pardon d'avoir fait moins Aaron Sorkin.
Ouais, ça change.
Allez, revenons à une série du dimanche. Enfin, c'est une mini-série du dimanche, puisqu'il n'y a que 6 épisodes et il est peu probable qu'il y en ait d'autres. Il s'agit de Political Animals.
Je vais faire une sieste pendant ce temps-là.
Qui, écoute, c'est une série c'est où il y a des personnages féminins qui sont
bien forts et bien écrits.
Ah, mais ça va pas me plaire.
Oui, c'est ça.
Que tu voudrais sûrement frapper parce que...
Franchement, mais de quoi elle se mêle ? De quoi elle se mêle, le journalisme et la politique ? Non, elles sont chiantes, elles crient tout le temps, elles ont des principes, c'est nul.
De toute manière, le journalisme, c'est pas pour les femmes.
Voilà.
Ça, c'est une chose, c'est pas pour les femmes. Je vois pas pourquoi elles ont décidé de sortir de la cuisine alors qu'elles faisaient très bien à manger. C'est une attitude que je trouve très... très peu respectueuse des valeurs familiales. Donc je vous laisse parler de Political Animals.
Greg Berlanti, le créateur d'Everwoods et de... Surtout de Brothers and Sisters. C'est donc lancé dans l'adaptation de sa dernière série, Brothers and Sisters, qui place à la Maison Blanche cette fois-ci.
Voilà.
Avec en utilisant un énorme casting. Il a à peu près tout le monde dans sa série. À commencer par Sigourney Weaver qui joue Hillary Clinton. Voilà. Et c'est effectivement une espèce de décalque du parcours d'Hillary Clinton, mais à la mode soap opéra, gay friendly.
Et c'est pas mal du tout, étonnamment. Moi j'ai surtout aimé j'ai été assez emballé par le pilote qui était pour le coup, qui je trouve avait trouvé le bon équilibre entre le côté soap. Où clairement, il faut pas non plus prendre la série au sérieux. C'est pas forcément une série à clé. Il faut pas s'imaginer. On n'était pas censé chercher la réalité dedans, même si clairement, c'était calqué sur l'histoire d'Hillary Clinton, et qui, je trouve, sous couvert de divertissement, disait quand même une ou deux choses un petit peu intéressantes et avait surtout un très très bon casting. Je suis un peu moins emballé par la suite de la série, qui est bien, mais où on retombe beaucoup plus dans le soap avec des intrigues qui, pour le coup, sont parfois un peu faiblardes, entre la grand-mère alcoolique qui est là juste pour sortir des blagues de cul deux fois par épisode, et du coup c'est drôle parce que c'est une vieille qui sort des blagues de cul. La série, surtout quand
on... Ça donne super envie. Vous savez très bien vendre une série TV.
Et même les intrigues politiques dans les, dans les épisodes suivants, autant l'intrigue où elle essaye de devenir... Autant l'intrigue où on voit que Sigourney Weaver veut se redevenir présidente m'intéresse, autant toutes leurs intrigues avec la Chine ou autres sont pas complètement passionnantes. Mais c'est très agréable à regarder et je trouve que la série qui avance pourtant sur un terrain miné évite un peu toutes les gaffes qu'elle aurait pu faire sur ce sujet. Et notamment j'ai eu plus... J'ai eu plusieurs fois assez peur. Pardon, je suis un peu distrait parce qu'il y a de l'agitation à côté de moi. J'ai eu plusieurs fois assez peur qu'on retombe un peu dans les clichés parce que Sigourney Weaver, donc qui est en fait, c'est Hillary Clinton, sauf que Hillary Clinton quitte Bill Clinton au début, dans la première scène de la série.
C'est-à-dire ah qu'elle ouais, d'accord, perd ces gens qui veulent nous montrer comment les femmes auraient dû agir, hein, c'est du Aaron Sorkin un peu.
Non, pas du tout. Chut, voilà.
Retourne dans ta chambre, on te rappellera quand tu pourras parler.
D'accord, ok. Continue, pardon.
Donc Hillary Clinton
qui quitte Bill Clinton. Donc c'est ça un peu la distinction entre la vie réelle et la série. Ça et le fait qu'elle a un fils qui est un top modèle gay, toxicomane, qui a plein de problèmes.
C'est plutôt Sarah Palin. En vrai.
Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et assez régulièrement quand même, comme le personnage de son ex-mari, qui est effectivement un obsédé sexuel, qui l'a trompé avec beaucoup de femmes, revient régulièrement dans la série, et que comme la série est un soap, elle se concentre quand même sur le fait qu'ils s'aiment beaucoup, même s'ils n'arrêtent pas de s'engueuler. Elle lui demande régulièrement des conseils politiques, et plusieurs fois j'ai cru qu'on allait avoir droit en fait au mec qui finalement explique tout à sa femme, qui avait rien compris, et la série en général... prend toujours ça un tout petit peu à contre-pied et on s'aperçoit que... pour dire ces choses plus simplement, ce qui me plaît dans la série, c'est qu'on voit Sigourney Weaver qui est à un poste très très haut dans la Maison Blanche et que, contrairement à 95% des séries qui montrent des femmes à des postes de responsabilité, à aucun moment on a l'impression qu'elle est complètement incompétente à l'écran alors que tout le monde la trouve géniale dans la série. Ce qui est tout le contraire du coup de Lynette Scavo ou... GG à toi.
Non, mais t'as résumé tout l'intérêt de la série et effectivement ses faiblesses. Sa faiblesse la plus grande, à mon avis, c'est le côté saut pour une mini-série qui, en gros, va durer 6 épisodes. Oui. Si on était lancé sur 22, ça ne me dérangerait pas ce type de développement, mais effectivement, après la force d'un pilote vraiment enlevé et qui... Oui, si les 6 autres épisodes, si les 5 autres épisodes avaient été dans cette veine, ça aurait été... une mini-série très excitante. Là, effectivement, on a l'impression d'assister quand même au départ d'un saut. Même la première partie d'une... Parce que c'est que 6 épisodes. Ça pourrait durer 5 saisons, ce truc.
J'imagine que c'est ce qu'ils espéraient, parce que c'est quand même assez étonnant, les choix qu'ils font. Là, dans l'avant-dernier épisode, on voit le fils de Sigourney Weaver, le fils qui est censé être le fils modèle, qui trompe sa fiancée avec la journaliste.
Avec la journaliste.
Ce qui en soi peut être un rebondissement intéressant, mais ce n'est pas le genre de rebondissement qu'on a à une heure de la fin de la série, normalement. Il y a pas mal de choses comme ça qui lancent. Donc, à mon avis, ils espèrent avoir une suite.
Tout comme tout ton expert, c'est quand même voir ça, la campagne, la campagne de Sigourney Weaver, qui, en gros, va s'inscrire... il va y avoir une primaire à la suite, une primaire démocrate, mm-hmm. alors que le président en poste... qui n'est pas un noir dans la série, mais qui est un... C'est quoi sa minorité ?
Il est italien.
C'est un italo-américain. Qui va y avoir... Alors, c'est lui qui est président. Ouais. Donc, elle va se présenter pour avoir l'investiture démocrate pour lui. Donc, et ça, c'est surprenant, intéressant à suivre. Voilà. Ça va être un peu frustrant si la série s'arrête. En tout cas, effectivement, la force de la cellule... L'une des forces de la série, c'est de présenter des personnages féminins, compétents.
Ouais. Et la journaliste,
comme la journaliste, on sent que, c'est une femme qui a un poste à haute responsabilité parce qu'elle est talentueuse. Ouais. Alors effectivement, elle a couché avec son éditeur, mais ça n'empêche pas qu'elle est quand même...
Et puis d'ailleurs, dans l'épisode suivant, les scénaristes se rattrapent en lui faisant remarquer qu'en fait, son éditeur qui couche du coup avec une nouvelle journaliste est plutôt moins sympa avec elle, donc ça nous rassure dans le fait qu'elle n'a pas été avantagée. Moi j'aime beaucoup le personnage de la journaliste parce que justement j'avais un peu peur qu'on ait Sigourney Weaver seule contre tous avec ses deux fils, son ex-mari, ses relations avec sa mère qui pour le coup sont assez attendues ou et je trouve ça très bien qu'ils aient mis un autre personnage de femme en face d'elle qui soit à la fois son antagoniste et son allié selon les scènes et qui pour moi ajoute pas mal à la série. Et je trouve que les relations justement entre les femmes dans la série sont plutôt intéressantes, notamment même la journaliste avec l'autre journaliste qui est une blogueuse. Ouais. Leur relation n'est pas complètement... ils prennent souvent à contre-courant ce qu'on attend des relations entre deux femmes, surtout deux femmes qui sont plus ou moins, ont plus ou moins été séduites par le même homme dans une série. Donc à ce niveau-là...
Tu veux dire qu'elles font pas de trisson ?
Non. Et puis ça permet aussi d'avoir un discours sur les femmes ambitieuses, puisque ce qui a été reproché à Hillary Clinton et ce qui est reproché dans la série au personnage de Sigourney Weaver, c'est qu'elle n'est pas aimable, enfin en tout cas, et puis elle n'est pas aimée parce qu'elle apparaît comme une femme froide, et à la fois par les conservateurs et les progressistes, ou les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'elle a tous les défauts, c'est-à-dire qu'elle a les ambitions des hommes. Donc ça c'est pour les conservateurs qui trouvent que c'est pas bien, mais pour les féministes c'est quand même une connasse qui est restée avec son mari alors qu'il l'a trompée. Donc ça joue, enfin ça a un discours, ça permet de développer en tout cas un discours, et les personnages développent des discours relativement intéressants sur cette position des femmes à ce niveau de pouvoir, à ce niveau de dans ces situations là, ce qui est vraiment une chouette chose.
Je le regarderai.
Et Sigourney Weaver n'est pas botoxée. Et ça, franchement, c'est assez étonnant.
Elle est
et c'est assez agréable dans une série télé.
Bah, de voir une femme de 60 ans qui a des rides. Enfin, ça paraît quasiment.
Et qui les porte et qui n'est pas considérée comme.
Et alors, effectivement, comme... moi.
Ouais, mais c'est pas Sigourney Weaver. Ouais. Elle est là, hein. Passe droit.
Pourquoi ?
Bah, c'est pas une actrice, c'est Sigourney Weaver.
Mais combien d'actrices à Hollywood,
combien d'actrices à Meryl Streep, on voit plus ses rides.
Ça fait longtemps que j'ai plus vu Meryl Streep.
Je crois, Annette Bening, elle avait tenu longtemps, et puis, paf, d'un seul coup, le masque de cire. C'est pas une façon de juger en disant hein, toutes les femmes qui font du botox sont vraiment des connasses très féministes. On comprend bien que. Mais. C'est quand même.
Ça, en fait, c'est bizarre que ça surprenne de voir à l'écran quelque chose qui finalement.
Moi, ça me surprend.
Quelque
pas.
Chose qu'on voit dans la vie, quoi.
Moi, je sais pas, ça m'a pas surpris. Enfin, la dernière fois que j'ai vu Sigourney Weaver, je dirais pas dans quoi c'était. Mais ça m'a pas particulièrement surpris de la voir telle qu'elle était, quoi.
Mais combien de séries centrées sur des femmes, pas forcément que de la soixantaine, mais enfin de plus de 40 ans, parce que c'est devenu à la mode depuis les Sweater Swaths, montrent des héroïnes qui sont complètement botoxées.
Tu regardes Hot in Cleveland. Moi j'aime bien cette sitcom. C'est avec Wendy Malick, c'est avec la fille de Frasier, c'est avec une autre fille, elles ont 50 ans, mais sérieusement, elles sont. La série me fait beaucoup rire. Hein.
Je pense que c'est parce que je regarde essentiellement des séries sur des jeunes.
Mais elles sont botoxées, ben c'est affreux. Et elles portent des mini-jupes. Donc on n'est pas dans un discours hyper réac, genre les femmes doivent assumer.
C'est la série de Betty White.
Oui, c'est ça. Doivent assumer d'avoir 50 ans et d'avoir des robes à la Big Love et porter des rides, d'avoir les cheveux blancs et tout ça.
Et à la DCB.
Mais voilà. Ah ouais, non.
Oui, Grace.
Voilà, ça fait un peu flipper de voir de se rendre compte qu'effectivement, on est surpris. Oh ouais. Mais elle est ride. Ah, mais bah oui, on sent qu'elle met des robes qui lui permettent de cacher qu'elle a pas une taille de mannequin. Enfin, et ça empêche pas que, enfin voilà, c'est une actrice géniale et que.
Ouais, c'est si grand et maman.
Et d'ailleurs, dans le premier épisode, il y a une scène intéressante où les deux héroïnes, enfin Sigourney Weaver et la journaliste, sont toutes les deux amenées à un moment. On leur pose la question « Qu'est-ce que vous allez porter ce soir ?» Et elles disent « Est-ce que tu crois vraiment qu'à mon poste, j'ai le temps de me changer de vêtements entre le matin et le soir ?» Et finalement, les deux héroïnes se changent et remarquent l'une comme l'autre qu'en fait, elles se sont senties obligées de se changer alors que les hommes de la série ne se sont pas changés, je crois, ou sont plus ou moins habillés pareil que le matin. Et bon, c'est pas ce que j'avais trouvé assez intéressant dans le premier épisode, puisque sur les tenues des.
Et ces trucs ont rien d'anodin, là. Ouais. Il y a Angela Merkel, il y a eu tout un truc journalistique, entre guillemets, autour d'elle, parce qu'elle a porté une même tenue.
Deux fois.
Qu'elle a reprise il y a un an ou six mois. Elle a remis. Et
c'était quand ça ?
Je sais, c'était cet été, je
dans
crois.
Dans quoi qu'une magazine ?
Ah non, mais c'était. C'est les trucs qui faisaient l'ouverture des journaux allemands, le JT et tout ça.
Sérieusement.
Donc,
c'est pour ça que je ne regarde que le Daily Show et le Colbert Report. Je m'en porte beaucoup mieux.
Allez, il nous reste deux séries de l'été à aborder avant de voir. Bah, il nous reste Wilfred et lui.
Okay.
Et Girls, ah oui, on n'a pas parlé
non,
de Girls. Est-ce
girls,
qu'on
va se déchirer
sur Girls ou pas ?
Ah non, on en a fait.
On en parlera pendant la saison 2.
Voilà. C'est ça. Donc, on va laisser une tribune, le champ libre à Iris pour vous réexpliquer à quel point Wilfred est la deuxième meilleure série du monde, puisque.
La meilleure du monde, c'est Louis, oui, c'est Louis.
Voilà, c'est ça. Et donc, en quoi la série avec un hobbit et un humain habillé en chien
révolutionne complètement ce qui est. C'est une des séries, selon moi, les plus ambitieuses à la télévision actuellement. Voilà. Alors, donc, Wilfred, à la base, j'en avais fait un article. Le principe de la série, c'est qu'il y a Ryan, qui est joué par Elijah Wood, qui essaie de se suicider. Enfin, c'est un personnage qui va mal. Donc, il essaie de se suicider. Et quand il se réveille le lendemain, parce que sa tentative a raté, il y a sa voisine très très mignonne, sa nouvelle voisine très très mignonne, qui vient lui demander s'il peut garder son chien, Wilfred. Et il dit ouais, pas de problème. Et donc quand Wilfred arrive, il s'avère que Ryan le voit comme un homme, un grand Australien qui porte un costume de chien. Donc Wilfred, Ryan est le seul de la série à voir Wilfred, un des seuls de la série à voir Wilfred comme un homme. Alors que c'est un chien qui a donc un comportement de chien, avec tout ce que ça implique. Et ce chien va jouer un peu le rôle que les Manic Pixie Dream Girls jouent dans la vie des héros de comédie romantique américaine, qui est donc, à savoir, pour vous donner des exemples de Manic Pixie Dream Girls, ben, Audrey Hepburn dans plusieurs de ses rôles, plus récemment on a eu Natalie Portman dans Garden State, on a eu Kristen, la blonde là,
Belle.
Mais tu as expliqué au précédent podcast que c'était qu'une Manic Pixie Dream Girl.
Oui.
Donc j'ai pas besoin de
réfléchir. Faut faire confiance à mes
donc
auditeurs.
Donc voilà, c'est une meuf qui change la vie de son... Non, parce que sur mon ancien podcast, on m'engueulait tout le jour parce que j'emploie ce terme et que cette personne le connaissait. Donc voilà. Ouais. Oui, j'ai fait d'autres podcasts que vous, je vous ai trompé. Donc, c'est une fille qui change la vie de son... du garçon qu'elle rencontre. Et là, Wilfred, c'est un peu ce qu'il fait. Il change la vie de Ryan pour le meilleur, il lui permet de
devenir... Pour le pire ?
Non, pour le meilleur, Wilfred permet à Ryan de devenir un peu plus extraverti, d'apprendre à plus se laisser aller, à plus laisser les choses, à moins être aussi anal qu'il l'était peut-être un peu avant, à toujours tout suranalyser, toujours... il lui apprend à lâcher prise, en fait. Et donc, Ryan s'en porte un petit peu mieux. Ça, c'était la saison 1. Mais à la fin de la saison 1, on avait donc spoiler alert, blablabla, bla, ouh, quelle horreur! Spoiler alert, à la fin de la saison 1 de Wilfred, Ryan passait son temps pendant toute la saison avec Wilfred dans son sous-sol à fumer des joints et à boire de la bière. Et à la fin de la saison 1, donc Ryan va ouvrir la porte de l'escalier pour descendre dans le sous-sol et en fait il réalise que c'est un placard. Donc il n'y a pas de sous-sol dans sa maison, il y a juste un placard. Et il y a la balle, une balle de tennis avec laquelle Wilfred jouait, qui tombe du placard. Et donc on est là, ça nous rappelle que en fait Wilfred n'existe pas, le sous-sol n'existe probablement pas non plus. Et c'est tout une belle hallucination de Ryan. Toutes ces choses qui l'ont permis d'aller mieux, toutes ces choses qui l'ont poussé à essayer de sortir un petit peu de sa coquille et de lâcher prise, ça a toujours été une pure hallucination, une pure invention de sa part.
Pardon, mais moi sur les photos promo, j'avais compris que le chien, c'était pas un vrai chien et qu'il n'existait pas. Enfin, c'est pas la surprise de la série, si.
C'est pas une surprise, mais quand tu vois les épisodes, ça officialise le fait
qu'il est fou.
Oui, oui, ça te rappelle en fait, parce que quand tu vois la série, tu considères Wilfred comme un personnage. Toi, tu considères Wilfred comme un personnage et pas comme la manifestation d'un problème psychologique chez Ryan.
Ah bah si. Bah, dès le départ.
À chaque épisode, tu y penses, toi, que c'est... À chaque chose que Ryan fait en fonction de Wilfred...
Alors, à chaque épisode, dès la saison 1 et dès le premier épisode... De toute façon, ça nous les rappelait tout le temps dans la série. Quand il va mettre sa tête dans les seins d'une fille,
oui,
et qu'il trouve et que tu fais oh, comme il est mignon, etc.
Oui, on
se rend bien compte, on le sait.
On le sait, mais c'est joué sur le sens, c'est joué sur l'humour plus que sur. Et merde, c'est un mec qui voit un chien comme un humain, c'est triste quand même, enfin, c'est horrible.
Ah. Ah bah oui, et surtout que.
Mais la série, elle a un ton très léger là-dessus. La mère de Ryan est dans un asile, elle est folle.
Elle voit un chat.
Ah oui, c'est vrai, c'était ça, elle voyait un chat, oui, j'ai vu il y a longtemps. Oui, voilà, donc la mère de Ryan est folle aussi, mais on n'en a pas conscience de tout ce que ça implique. Et c'est en ça que je considère que la saison 2 est exceptionnelle, c'est parce que petit à petit, on se rend de plus en plus compte de ce que la folie de Ryan va impliquer pour lui. C'est-à-dire, dans le dernier épisode, il réalise que c'est pas vraiment possible pour lui d'avoir une relation amoureuse parce qu'il a toujours cette espèce de... Il peut pas assumer quelqu'un d'autre quand lui-même est pas sûr de ce qu'il vit.
Ouais, moi je suis moins emballé par la saison 2. La saison 1 m'a beaucoup plu comme comédie un peu loufoque sur un point de départ, peut-être un peu triste parce que le type est dépressif et un peu fou. Mais cette saison 1 m'a beaucoup beaucoup amusé. C'est vraiment le gars qui joue le chien là est très drôle.
Jason Gunn.
Par contre, ça me gonflait un peu le côté à chaque fois qu'il arrivait quelque chose d'un petit peu positif dans la vie de Ryan. Forcément, le chien faisait n'importe quoi, Wilfred faisait n'importe quoi, et le mec revenait au point de départ ou était encore plus enfoncé. Tu dis que ça l'aide à aller un peu mieux, etc. Mais quand même, à la fin de la saison, il est à peu près pour se...
Ça le pousse à essayer.
Ça le pousse à essayer. Résultat, il détruit la vie de tous les gens qui sont autour de lui.
Ouais, mais ça le pousse à essayer. Là où c'était un personnage qui se laissait faire, qui était très passif, ça devient quelqu'un qui devient un peu plus...
Ça devient un connard.
Ça devient quelqu'un qui prend sa vie en charge. Au lieu de subir tout ce qui lui arrive, ça devient un personnage qui prend sa vie en charge, qui fait des choses pour essayer d'être heureux.
Ouais.
Ou peut-être pas forcément juste pour essayer d'être heureux, mais c'est juste un personnage qui avant était totalement mort, enfin qui était presque mort quoi, et qui d'un seul coup se met à essayer.
En tout cas, cette première saison est vraiment vraiment très très réussie, vraiment très chouette, et même cette fin où le gars ouvre la porte, c'est pas parce que on veut marteler au spectateur que Wilfred, vous avez oublié, c'est pas un vrai chien. C'est pour à ce moment-là, je prenais vraiment ça comme le fait que la série expliquait au gars, mon gars, t'es vraiment fou, quoi. Ouais, c'est à ce moment-là où Ryan se rend compte qu'il a un problème. Et je pense que la série aurait gagné à se terminer là. À être une saison, 13 épisodes, c'est parfait, c'est plié. On sait bien. Parce qu'en deuxième saison, je trouve que la première partie de la deuxième saison a beaucoup de mal à se remettre en selle. On suit Ryan dans son nouveau travail, on suit...
Le premier épisode de transition est très bon. Où il est à l'asile et tout.
Ouais, mais comment... Quand le mec il a un nouveau travail, ça veut dire que il peut plus avoir son chien. Donc quand même, il va emmener son chien au travail pendant 3 épisodes. Là, on sent que les choses sont beaucoup plus forcées, alors que quand il était au chômage... C'est normal qu'il soit lui qui ait la garde du chien de sa voisine qui, elle, avait un boulot. La voisine qui apportait un petit équilibre à cette relation un peu bizarre, on la voit quasiment plus. Ouais. Elle est toujours en déplacement, parce que comme c'est pas son chien, ça lui permet de la voir. Et je trouve que l'absence de la voisine nuit aussi au développement de cette deuxième saison. Et je vois pas où est-ce qu'on va aller, je vois pas où la série veut nous emmener, effectivement, donc ok.
Moi j'ai envie que ça devienne une série très très dépressive, et comme Community, j'aime les sitcoms tristes.
Et clairement, mon gros souci c'est que ça me fait beaucoup moins rire qu'en saison 1.
La série
n'est plus drôle, c'est-à-dire que Wilfred il est pas drôle, là, franchement il est un
Attends,
peu drôle.
Attends, le moment où l'épisode où ils refont des scènes de danse culte, dans la rue où ils sont...
Ouais, c'était, je trouve ça moins drôle que.
Moi j'ai trouvé ça qui passait la surprise.
Moi j'aime bien quand Wilfred c'est vraiment un gros dégueulasse.
Moi j'aime pas, mourir de rire.
Ça me faisait mourir de rire. Et il y a moins ça dans la deuxième saison, et peut-être que je me suis. Je sais pas. Et
moi, c'est vrai, par contre,
les 2-3 derniers épisodes sont assez réussis, mais là, dans le fond de ma tête, il y a ce côté pourquoi une deuxième saison.
La deuxième saison elle donne vraiment un second souffle à la série qui aurait pu être très lassante si ça avait continué à jouer sur simplement Wilfred est un gros dégueulasse. Je trouve que là tout à coup on a une espèce de renaissance de la série et que ça devient quelque chose. Pour moi c'était une série très sympa que je conseillais à beaucoup de gens pendant longtemps qui ne m'écoutaient pas, et c'est devenu tout à fait autre chose, c'est devenu quelque chose qui est qui est un vrai petit bijou pour moi. C'est un vrai petit bijou, cette série.
Tu vois la série durer combien de temps? De toute façon, elle, ça n'a pas été renouvelé.
Je crois que 2 saisons, ça suffirait. Une 3e saison éventuellement, où on verrait Ryan vraiment dans les enfers, quoi. Mais ça devrait s'arrêter. Mais là, en même temps, Wilfred, il n'arrête pas de dire que a storm is coming et tout ça. Et vu qu'on entend, l'histoire de base, il y a un problème avec son père, je pense que le gros problème que Wilfred annonce, le truc où tout va péter, ça va être un truc avec le père de Ryan. Une confrontation entre les deux. Vu que c'est ce que Ryan évite à tout prix.
Après,
donc, je pense que,
tu sais que c'est un peu de ta faute que tu m'as aussi gâché la série, puisque en même temps que tu m'as conseillé Wilfred, tu m'as conseillé d'écouter Louis C.K. Et Hilarious. Et quand je vois Ryan, je peux pas m'empêcher de penser à Louis C.K. et à ses problèmes de blanc, à ses problèmes de téléphone portable qui marche pas, etc.
T'as regardé Hilarious, donc?
Je l'ai écouté.
Et t'as aimé?
Mais oui, j'ai ri comme pas possible.
Yes!
Et sauf qu'à un moment donné, effectivement...
Oui!
Tu te dis, ah ouais, pauvre chaton, quoi, il a vraiment trop de soucis, quoi.
Non, mais Ryan, il a vraiment des soucis. Moi, c'est pour ça que la saison 2 m'intéresse plus que la première. C'est parce qu'on touche vraiment du doigt aux problèmes psychologiques de Ryan, je trouve. Et ça, je trouve que s'ils y vont vraiment dans cette direction-là, ça pourrait donner quelque chose de très très couillu et de très très fascinant à voir.
Et on voit pas assez la sœur. Ah, c'est super, ouais. La sœur de Ryan. Elle est vraiment chiante. Mais chiante comme on l'aime.
Voilà, pas chiante comme Skyla.
Mais...
Et donc oui, regardez Louis, c'est ça. Écoutez Louis.
Écoutez, regardez,
Les spectacles de Louis C.K. sont disponibles sur Spotify. Pour tous ceux d'entre vous qui avez Spotify, donc vous pouvez écouter Louis C.K. quand vous avez terminé notre podcast, vous pouvez vous rendre sur Spotify et écouter ses spectacles. Je vous conseille en premier d'écouter Hilarious parce qu'il est quand même exceptionnel.
C'est vraiment... mais c'est à mourir de rire et tellement vrai. Et tout ce qu'il dit est... Enfin, c'est à l'image de sa série. Enfin...
Mais moi, je trouve que... Ouais.
La série, moi, je la trouve plus forte parce
que... Voilà, je la trouve plus forte, la série, parce qu'il va plus dans le... Il pousse plus à la réflexion. Ses spectacles sont hilarants à en crever.
Tu regardes pas, Louis ?
Il pousse... Non. Oh, ils font réfléchir, ils font réfléchir ces spectacles.
Parce que c'est vraiment, vraiment une très très belle série. C'est quelque chose...
C'est pas une série, pour moi, ça a dépassé le format... Déjà, pour moi, ça a dépassé.
C'est tellement bien que c'est plus qu'une série. C'est tellement bien qu'on dirait du cinéma.
Ah non, pas du tout. Non, c'est ça a rien avec le cinéma, ça a rien à voir avec les séries TV, ça.
Mais si, c'est une série TV.
Pour moi, c'est plus que simplement une série TV, vu que c'est quelque chose. Enfin, c'est à la limite du documentaire. Mm-hmm. Ah si, je trouve que c'est tellement. Pour moi, c'est au-dessus d'une série TV parce que on regarde. Si je dois mettre. Bah oui, la dernière
télé,
fois j'avais
quoi,
mis
une
un
série télé, c'est un
oui.
C'est une fiction qui est diffusée
à la télévision
une fois par semaine en gros.
Ouais, bon, d'accord.
C'est une série télé.
Oui, non mais tu comprends pas ce
que n'oublie pas que je suis l'homme blanc qui t'explique.
Voilà, d'accord Arwan. C'est bizarre ça. donc oui. Non, bah pour moi, j'arrête de considérer Louis comme une série TV parce que sinon toutes les autres séries TV vont profondément me décevoir. C'est mon The Wire à moi, c'est-à-dire que d'un point de vue.
Tu vas pas donné envie à Mohamed, à Conan Brown de regarder.
Non, mais voilà, c'est des trucs que si on me demande ce que c'est une série préférée, bah, je dirais Louis parce que c'est tellement hors norme. Pour moi, c'est tellement plus que. Ça va tellement plus loin que tout ce que j'ai pu voir d'autres dans leur. Genre de prédilection que ça explose tout le reste. Donc je préfère ne pas. Pour moi, c'est pas une série TV. Enfin, c'est pas juste une série TV.
C'est vrai que c'est compliqué par contre de parler de Louis.
Voilà, oui, parce
d'expliquer
que...
à quel point c'est bien.
C'est pas facile. C'est pas juste bien, c'est poétique, c'est bon à en crever. Il y a des épisodes.
Oui, c'est très poétique.
Il y a des épisodes, je riais en pleurant parce que c'était.
Oh non. Non, mais oui.
Oui, c'est.
Et au-delà de ça, quand même, enfin. c'est très, 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 très drôle.
Ouais, c'est...
Il y a tout un côté poétique. Des fois, il y a des épisodes en noir et blanc, des fois, c'est très triste. Des fois,
non, il n'y a pas d'épisodes en noir et blanc, il n'existe pas.
Mais si, avec Robin Williams, c'est en noir et blanc.
Est-ce que c'est vraiment en noir et blanc ou est-ce que c'est comme le noir et blanc du mec dans le métro?
Je crois que c'est en noir et blanc. Si, c'est en noir et blanc.
Bah, ouais. T'es sûr?
Je suis sûr à 80%.
Le club de striptease, il est pas en noir et blanc?
Non. C'est que la première scène qui est en noir et blanc.
D'accord, ok, donc c'est pas l'épisode qui est en noir et blanc. On est bien d'accord.
C'est tout le début, j'espère.
Non, parce qu'on avait déjà eu, tu te rappelles, la scène du mec.
La scène
dans
du métro, je crois qu'elle était en noir
j'étais
et blanc.
J'étais certaine, mais j'arrive toujours pas à y croire. Je suis sûre qu'ils ont.
Et à côté de ça, mais t'as des choses qui sont, mais à mourir de rire.
Ouais. Bon, toi, voilà. Tu vas citer la diarrhée dans la
mais il faut pas heure, citer des choses.
Voilà, non, il faut voir cette série, il faut s'attendre juste, faut l'avoir en ayant l'esprit ouvert, vraiment, et pas...
C'est comme Teen Wolf. il faut pas garder d'œillères,
vas-y,
il faut se dire
nous,
que...
Parle-nous de Teen Wolf.
Non, parce que c'est compliqué d'en parler tout seul comme ça, mais c'est pour vous dire que c'est... Enfin, ma grosse surprise de l'été, c'est Teen Wolf, c'est... C'est une série très drôle, qui assume ce qu'elle est, c'est-à-dire un teen show et une série avec des créatures surnaturelles. C'est pas dans l'esprit, enfin si, c'est à la manière de Buffy, hein, clairement. De toute façon, le créateur dit que ce que Whedon a dit sur l'école, c'était son credo, etc. Donc effectivement... on sent qu'il joue sur les mêmes bases, mais il crée rapidement son univers à lui. C'est... voilà. Je pense que... On en reparlera quand je vous aurai convaincu à force.
Écoute, c'était le marché. Donc
et c'était le marché. Tu devais regarder Teen Wolf et tu devais regarder Wilfred. J'ai rempli ma part du marché.
Mais voilà.
C'est vraiment une très très belle série. Enfin non, pas très très belle série. C'est une...
Oh, je t'en prie.
C'est une série addictive, très drôle.
D'accord. Bon, je regarderai ça.
C'est pas drôle. Enfin, si, il y a un personnage qui est très drôle. Ça tient bien ses arcs. C'est très maîtrisé. Les introductions sont vraiment très très maîtrisées. Ça joue sur les stéréotypes. Il n'y a jamais de facilité dans la façon de raconter les histoires, dans la façon de... C'est vraiment très chouette.
D'accord. Bon, la prochaine fois on en parlera, vu que je devrais regarder d'ici là. Tu as une série que tu regardes tout seul de ton côté?
Non.
Je peux dire quelques mots sur elle? Elle est complexe?
Tu peux.
Alors, à la manière de GG, ça va être juste très très rapide, mais je regarde une série qui... D'accord, à la manière de l'introduction de GG, ça va être très très rapide. Donc c'est une série sur quelques personnages qui vivent à Los Angeles dans un groupement d'appartements, on va dire. Un peu à la Melrose Place, autour d'une piscine et tout. Ils ont tous des ambitions diverses dans le show business. Il y en a une qui veut devenir actrice, une autre qui veut devenir... qui veut être danseuse dans des clips, un autre qui veut devenir comédien, enfin, écrire des blagues pour le... Soit comédien de stand-up, soit écrire des blagues pour une émission. Et bref, on voit tous un peu comment... Il y a des rappeurs. On voit tous comment ils se dépatouillent, comment ils se battent pour arriver à leur fin. C'est des jeunes. À la base, c'était une série canadienne qui était diffusée sur Maple Leaf Channel. Et au final, ça a été repris par la CW. Et c'est très très bon. C'est la saison 2 me plaît autant que la première. Et c'est vraiment, c'est avec moi, c'est avec Bunheads, Awkward, The Elle est Complexe, c'est les séries de l'été qui font que je les regarde sans prendre la tête et que je suis jamais déçue.
Oh, ça donne plus envie de regarder Elle est Complexe que Teen Wolf, je me suis raté, c'est pas grave.
Mais c'est parce que c'est meilleur.
Pour conclure ce podcast, cette deuxième partie, on va envisager la rentrée. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie pour la rentrée? Si parmi les nouvelles séries, puisque Jus nous a à peu près détruit l'envie de regarder la moindre chose à la rentrée, avec son article sur les photos promo qui était publié en juillet,
Il y a la série de HBO ou de Showtime dont j'ai toujours pas retrouvé le titre, New Sex / We Are Doing Sex and We Are Doing It Good / Sexuality Now on TV, ou un truc avec sexe dans le titre.
C'est le nouveau porno soft d'HBO, voilà. Showtime, quoi.
Exactement, c'est du cul.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de sexe sur le câble, donc là, je pense que c'est bien qu'il y ait...
Et parmi les séries Network, rien.
Non, mais ça pourrait être du sexe entre des humains, pour une fois.
Moi, je suis... Mais alors, c'est vraiment de la curiosité malsaine, parce que je sais que ça va être nul et voire choquant, mais la série de Ryan Murphy sur le couple d'homo qui décide de voler l'enfant d'une blonde du Midwest et qui, au passage, emménage avec elle et sa mère... à mon avis, ça sera intéressant à regarder.
Je crois qu'il y a Nini Leaks.
Masters of Sex.
Il y a qui ?
Nini Leaks. C'est une Real Housewives of Atlanta. Elle jouait déjà dans. Elle jouait l'entraîneuse de natation dans Glee cette saison.
Tu continues à regarder Glee ?
Ben oui. Et elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Ah mince, j'ai été obligé de regarder ça.
J'ai retrouvé le titre de ma série, c'est Masters of Sex sur Showtime.
Alors,
en plus, voilà. C'est sur le time. Super.
Aucune idée. Mais c'est Masters of Sex. C'est les Masters of Sex. C'est...
Et peut-être que du coup, il n'y aura même pas de scène de cul dedans, parce qu'il y a des scènes de cul dans absolument
en
toutes
fait,
les
séries. En fait, c'est un reportage sur Showtime et sur leurs 20 dernières années, mais on ne le sait pas encore.
Mm-hmm, d'accord. Et j'ai assez hâte, moi, de voir les saisons... 4 de The Good Wife et Vampire Diaries, parce que j'ai trouvé les deux fins de saison assez ambitieuses, et elles redistribuent un peu les cartes de la série, et je suis assez curieux de voir ce que ça va donner.
Deux séries que je ne suis pas.
Moi, je suis curieux de voir la deuxième saison de... C'est pas une série de Network, de American Horror Story.
Ah,
ça m'intrigue, parce que la première saison, c'était... à la fois n'importe quoi et en même temps relativement cohérent.
Et en même temps, on pouvait en avoir une interprétation absolument brillante, comme je t'en avais fait la démonstration.
Mais ça s'est un peu effondré à la fin quand même, je trouve, la première saison d'American Horror Story, qui d'ailleurs va avoir plein d'Emmy dans la catégorie
mini-série.
Ce qui est absolument scandaleux.
Bon, non, c'est plutôt futé.
C'est futé, mais...
Oui, c'est futé, mais c'est scandaleux.
Mais... Moi, je suis curieux de voir, je suis assez content qu'ils repartent à zéro. Mais le problème, c'est que je me dis qu'en sachant que ça repart à zéro et que finalement c'est une mini-série de 10 épisodes, les surprises de la première saison, notamment les personnages qui meurent au bout de 2 épisodes ou certaines révélations, seront un peu moins fortes, parce que finalement la première saison, l'intérêt c'est aussi qu'on pensait tous que ça allait continuer l'année suivante. Mais j'avais assez aimé l'univers pour le coup. Je pense que Ryan Murphy est plus à l'aise. Enfin, c'est moins malsain de voir Ryan Murphy dans une maison hantée avec des trucs d'horreur que dans un lycée avec des adolescents. Donc voilà.
Ou avec des homos.
Ou avec des homos parents, oui.
Ouais. Bah moi j'attends aussi. J'attends de voir Skyler mourir.
Mais elle mourra pas. Hein.
J'espère que ce sera ça le cliffhanger de mi-saison, c'est que.
Moi je suis assez d'accord avec GG sur le fait que la bonne fin pour la série. Ce serait que Skyler, genre, empoisonne Walt ou l'envoie.
C'est
en
moi
prison.
Qui l'ai dit que ce serait la bonne fin que.
Non, toi, la
si,
bonne
j'ai dit
fin,
que je voulais. Non, j'ai dit que je voulais que Walt. Soit que Walt meure empoisonné par la ricine, là, le truc qui... avec lequel il voulait empoisonner. Moi, oui, je t'emmerde, GG. Donc, oui.
Allez, Ryan, continue.
Ryan ? Pourquoi Ryan ?
Ah, pour rien.
Aaron, s'il te plaît, au moins, quitte à me donner le nom d'une personne.
Pas, oui.
Ah, Ryan, oh, oh, c'est trop chou. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ouais, soit j'aimerais bien voir que Walt se fasse empoisonner par le truc avec lequel ils vont les empoisonner Gus. Histoire
non,
que ce soit.
Ça, ce serait très plat, franchement.
Ou alors, ce que j'aimerais, c'est que la scène où on le voit dans le futur et avec ses armes, ce soit Walt qui s'est fait jeter par tout le monde, qui a son cancer, qui revient. Il y a Skyler qui s'est barré quelque part avec son fils. Et Jesse, de son côté, il est heureux avec sa copine et le fils de sa copine. Et que donc, Walt, il est tellement jaloux qu'il revient et qu'il a plein de flingues et qu'il tue tout le monde et qu'il tue Jesse. ce serait très joli comme fin, et pas du tout déprimant.
Mais c'est pareil, pardon, mais ça montre à quel point la série a un discours qui est interprété de manière très différente, mais à mon avis... Enfin, je suis pas sûr que ce soit Breaking Bad, ce soit la série où les scénaristes disent « Ah, mais chacun peut interpréter comme il veut les relations des personnages ou autres. » Mais pour moi, la fin où Walt est jaloux de Jesse et va le tuer, c'est pas du tout...
Non, c'est pas crédible pour le moment. Hein.
Ben, j'espère que ça ne sera jamais.
Moi non plus.
Mais je sais pas. Enfin, jalousie, non, mais que les deux personnages s'opposent, soit, mais pas
je veux une fin où les personnages soient diamétralement opposés, parce que Jesse, il est... Pour moi, il s'éloigne de plus en plus de Walt, quand même. Notamment au travers de son rapport à l'enfance, où depuis le début de la série, Jesse rend les enfants très... Il voit les enfants d'une manière... Bah oui, regarde son petit frère. Même quand son petit frère l'a fait se faire éjecter de sa maison, de chez ses parents, il l'a quand même protégé, Jesse.
J'avais oublié qu'il avait un frère.
Bah, son frère, il fume de la weed. Et Jesse, il prend sur lui la faute pour que son petit frère soit pas dans la merde avec ses parents.
Au fond, Jesse, c'est un grand cœur qui est dans une situation pas facile. Non, comme Skylar, tu vois.
Au fond, Jesse, c'est un mec qui a fait des mauvais choix dans la vie et qui, du coup, a envie de protéger. Il a envie de protéger les enfants qu'il voit
pour qu'ils fassent les mauvais choix. Les enfants, c'est important.
Ça, c'est pareil. La dichotomie entre Walt, qui est le vrai méchant parce qu'il est prêt à empoisonner un enfant, et Jesse, qui est le faux méchant parce qu'il tue
tout
le monde,
sauf des enfants. Non, Walt n'est pas un méchant parce qu'il est...
C'est quand même un peu simpliste.
C'est pas à cause des enfants que Walt est le vrai méchant. Walt est un vrai méchant
si. La fin de la saison 4, c'est Walt est enfin devenu le gros méchant parce qu'il s'attaque à un enfant.
Tu dis que Walt, c'est son intérêt à tout prix. Pourquoi est-ce que Jesse tue le chimiste, là? Est-ce que c'est pas pour protéger ses intérêts à tout prix?
Non, c'est parce que Walt lui dit tue-le. Et que Jesse, il est paumé et influençable et voilà. Et qu'il a quand même pas envie. Mais petit à petit, Jesse devient plus altruiste. Tu regardes. En fait, je pense qu'il devient tellement désillusionné qu'il en devient altruiste. Il a tellement plus rien qui le pousse à vouloir améliorer sa vie qu'il en vient à vouloir améliorer celle des autres.
C'est sur ces jolies paroles.
C'est pour ça que j'aime Jesse et que j'aime pas Walt.
Et sur cette fin de podcast à la Breaking Bad, puisqu'on revient sur le début qu'on avait presque oublié, qui nous revient en pleine figure de façon si incroyablement maîtrisée, qui fait que on va pouvoir terminer là avec.
Tu commences une phrase, tu sais même pas où tu la termines.
Non. C'est mon côté Ryan
Murphy.
Écoutez. À bientôt pour de nouvelles aventures.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci, au revoir.
Et bon courage pour la rentrée.
Bon courage pour la rentrée à toi.
La rentrée des séries.
Ah, bon courage pour la rentrée des classes.
Ça fait une jolie fin. Hein.